Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une de cette session d'actualité, la première ministre devrait former un gouvernement de moins de 30 ministres avec des réductions sévères des salaires et avantages attribués aux gouvernants. Le politologue et professeur Ngoma Binda, qui s'est ainsi confié ce lundi à Radio Kapi, plaide également pour la suppression de certaines institutions qu'il qualifie de budgétivores. Les écoles primaires et secondaires de la commune rurale de Manguina conviées à la reprise normale des cours. Cet appel est du bourgmestre adjoint de cette municipalité après 3 semaines de paralysie des activités dans ces écoles à la suite de la multiplication des attaques des ADF dans la zone. L'invité de ce journal est Valérie Madjanga, directeur général du Centre de recherche en finances publiques et développement local. Il propose à la nouvelle première ministre quelques mesures pour lutter contre les dépassements budgétaires récurrents à la base d'une économie peu reluisante avec une croissance non inclusive au pays. Bonjour à tous. Patience Ngalula vous présente ce journal. Train de vie des institutions en RDC, la première ministre devrait former un gouvernement de moins de 30 ministres avec des réductions drastiques des salaires et avantages attribués aux gouvernants. C'est ce qu'a affirmé dans une interview à Radio Kapi le professeur Ngoma Binda, qui plaide aussi pour la suppression de certaines institutions et le renforcement de la gouvernance participative. Ces politologues estiment que le gouvernement central devrait prioritairement promouvoir la décentralisation. Michel Kifindangoy.
La réduction du train de vie des institutions devrait prioritairement passer par la formation d'un gouvernement de moins de 30 ministres, estime le professeur Ngoma Binda.
Je pense que le tout premier acte que la première ministre doit prendre, c'est de réduire le nombre de ministres. Il n'est pas normal que nous ayons autant de postes de dépenses en termes de ministère, c'est trop budgétivore. Du temps de Mobutu, la moyenne des ministres qu'il avait, c'est dans les 28. Cela est tout à fait compréhensible. Pas 40.
Ce politologue et auteur de plusieurs livres en éthique politique propose à la première ministre de réduire de façon drastique les rémunérations et avantages attribués aux dirigeants politiques.
Lorsque les députés ont 33 000 dollars, ça blesse la moralité des gens, parce qu'il y a des gens qui meurent de faim par manque de 1000 francs simplement pour s'acheter un petit pain. Les députés nationaux devraient avoir 3300 dollars par mois. 3300 dollars, un point, un trait.
Le professeur Ngoma Binda plaide également pour la suppression des institutions budgétivores qui n'apportent pas grand-chose au quotidien des Congolais.
Au Kasaï central, le secrétaire exécutif provincial de la CENI, Onu Ntumba, suspendu de ses fonctions. La décision est tombée à la suite du passage du deuxième vice-président de cette institution à Kananga. Selon des sources au sein de la CENI, Onu Ntumba écope cette sanction pour faute administrative grave. D'après les mêmes sources, l'intérim est assuré par Véronique Baoto. Et puis des représentants de tous les États membres africains des Nations Unies, de la Commission de l'Union africaine, de la Banque africaine de développement, des communautés économiques régionales, de la société civile, des organisations commerciales et industrielles, des institutions universitaires et de recherche, des agences et organisations du système des Nations Unies et d'autres agences et organisations internationales ainsi que tous les partenaires de développement prennent part depuis dimanche à Addis Abeba au 6e Forum africain sur la science, la technologie et l'innovation. Les forums organisés par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique en vue de répondre à quelques objectifs de développement durable. Daniel Ntambizoni.
Sont sous examen les ODD 1, 2, 13, 16 et 17 qui parlent respectivement de la pauvreté, qui traitent de la faim, le changement climatique, la paix, la justice et les institutions fortes et aussi le partenariat pour la réalisation des objectifs 2030 et les objectifs correspondants de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce 6e forum africain sur la science, la technologie et l'innovation est placé sous le thème « Fourniture efficace des solutions scientifiques, technologiques technologiques et innovantes pour renforcer l'agenda 2030 de développement durable et l'agenda 2063 et éradiquer la pauvreté en Afrique. L'objectif est de procéder au suivi à l'examen régional des progrès réalisés afin d'identifier les mécanismes et les mesures potentielles que les pays peuvent déployer pour intensifier les actions, faciliter l'apprentissage entre pairs et faire progresser la transformation des solutions pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable et des objectifs de l'agenda 2063.
Direction Nord-Kivu, dans le territoire de Beni, les bourgmestres adjoints de la commune rurale de Mangina annoncent la reprise des cours dans ces écoles primaires et secondaires situées dans les quartiers Homme 4 et Mangondomu dans cette municipalité. Depuis 3 semaines, toutes les activités sont paralysées dans ces écoles à la suite de la multiplication des attaques des ADF dans la zone. Katembo Salumu appelle les parents à envoyer leurs enfants à l'école et rassure que des dispositions sécuritaires ont été prises pour permettre les bons déroulements des activités scolaires. Il est au micro de Marc Marofimbo.
Toute mesure a été prise samedi par rapport à la rentrée des classes. C'est pour cela que j'ai dit aux parents d'être prêts à amener les enfants à l'école demain lundi. Donc toutes les mesures sont prises. J'appelle aux parents de se méfier des fausses informations qui circulent par rapport aux mouvements qui peuvent survenir. Parce que ce que nous avons dit dans la réunion, je crois que tout le monde a été là et on a partagé, on a échangé. Je crois qu'avec cela, on va rebâtir les mariages civils et militaires parce que nous avons été avec le commandant Bataille dedans et la police. Et même, je crois que rien ne peut pas survenir de mal, bon, peut-être sauf un brevet. Et je leur ai dit que c'était Mangodom normalement qui serait la première à bénéficier de la sécurité parce que là nous avons implanté des dispositifs sécuritaires. C'est rassurant que les élèves de Mangodom peuvent étudier et je crois que la sécurité est au top.
Pendant 7 ans, toujours dans les territoires des Béni, l'armée, les services de sécurité et les organisations de la société civile se sont réunis ce dimanche pour évaluer la situation sécuritaire à Mangina. Cette commune rurale située à 30 km de la ville des Béni est la cible depuis 2 mois des attaques des rebelles des ADF. Différentes recommandations ont été faites pour renforcer la sécurité de la population. Marc Marofimbo pour les détails.
Au cours de la réunion, la société civile a insisté sur le renforcement de la communication entre la population et les autorités d'une part et d'autre part la prise en compte par les FARDC et les services de sécurité des alertes sécuritaires. Cette structure citoyenne a demandé aux services de sécurité de dénoncer tous les complices des ADF qui se seraient parmi les populations et des forces de défense et de sécurité. Mwongozi Vunyasi est président de la société civile de Mangina.
On peut y avoir ceux-là qui collaborent avec l'ennemi. C'est-à-dire on doit couper cette chaîne de relations entre l'ennemi et ceux-là qui collaborent avec celui-ci. Ça peut être ceux-là qui peuvent se retrouver dans la population, mais également aussi dans l'armée, on peut y avoir ceux-là aussi qui collaborent avec l'ennemi.
Le bourgmestre de la commune rurale de Mangina estime que l'issue de cette rencontre devrait permettre de renforcer la collaboration entre la population et les FARDC. Katembo Salamu.
Je crois avec cette assise que nous venons de faire avec la communauté de Mangina, les recommandations émises dans cette réunion vont renforcer le mariage civilo-militaire de part et d'autre pour que la sécurité règne à la commune de Mangina.
Depuis le début du mois, une dizaine de civils ont été tués dans différentes attaques attribuées aux ADF à Mangina. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Restons au nord Kivu pour parler du parc national de Virunga qui totalise ce 21 avril 2024, 99 ans depuis sa création. Ce plus vieux parc d'Afrique et de la RDC fait malheureusement face à de nombreuses menaces qui affectent son exceptionnelle richesse biologique, déplorent les directeurs des relations extérieures de ces sites du patrimoine mondial. Pour Méthode Ouosé, l'endurance et la résilience des gestionnaires éco-gardes et de leurs partenaires contribuent à sa sauvegarde jusqu'aujourd'hui, cela parfois au prix du sacrifice suprême. Il appelle à une mobilisation et à la responsabilité de tous les Congolais et de leurs dirigeants pour un futur meilleur du dit parc. Méthode Ouosé le dit ici au micro de Bernardin Nyangui.
Aujourd'hui, nous célébrons 99 ans de résilience, d'endurance, de reconnaissance à tous ceux qui ont perdu leur vie pour la préservation de ce patrimoine mondial de l'UNESCO, ce patrimoine national de la population congolaise. Dans une année, le parc national de Virunga va franchir 100 ans d'existence. Premier parc africain, première expérience de centre de conservation en Afrique. Malheureusement, comme vous le savez, l'Est de la RDC est déchiré par des guerres depuis plus de 20 ans. Le contexte actuel de travail n'est pas favorable. Cela doit interpeller toutes les autorités congolaises et toute la population congolaise. Nous sollicitons les efforts de tout un chacun dans les limites de l'espace du pouvoir qu'il détient, en fait d'appuyer tous les efforts de conservation afin de bénéficier de tout ce qu'il peut offrir comme pilier de développement au profit des fils et filles de la RDC.
En Ituri, 4 personnes mortes et 3 autres blessées dans un éboulement de terre survenu dimanche dans le site minier Maïmoussi, à environ 100 km de la ville de Bounia, dans le territoire de Djougou. D'après des sources locales, 3 enfants mineurs figurent parmi les victimes qui se trouvaient illicitement dans ces sites à la recherche des minerais. Des acteurs de la société civile et des activistes des droits de l'homme qui déplorent l'utilisation des enfants dans les mines attribuent cet accident à l'affaissement des terres. Les points avec Ezekiel Mouzalia.
Ce drame a eu lieu autour des 17h locales dans le carré minier de Maïmoussi, région minière située à 2 km du centre commercial de Mbidjo. D'après des sources locales, ces chantiers miniers abandonnés depuis très longtemps comptent au moins 7 puits d'or où les creuseurs artisanaux exploitent les minerais. 7 personnes, dont 3 mineurs qui se trouvaient à l'intérieur d'un puits d'or d'environ 8 mètres de profondeur, ont été ensevelis par la terre. La même source ajoute que 4 personnes sont mortes par asphyxie, tandis que d'autres ont été blessées puis acheminées dans un hôpital, indique des témoins. L'ONG Coalition Associative Résolue pour la Défense des Droits de l'Homme, Coardo, déplore ces drames qui, selon elle, est dû au mauvais état de ces puits, mais aussi aux fortes pluies qui s'abattent régulièrement dans la région. Lembu Urochi est son coordonnateur.
La crise alimentaire est à la base de la présence des affaires minières au foyer minier. Nous demandons aux parents de ne pas laisser accès aux affaires et aux orpailleurs de ne pas utiliser les enfants mineurs pour l'exploitation artisanale de l'or.
Des activistes des droits de l'homme et la société civile dénoncent la présence des enfants dans des périmètres miniers dans cette zone où de nombreux habitants vivent dans l'insécurité alimentaire en raison de l'activisme des groupes armés. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Au Congo central, la guerre des positionnements à la tête de la province s'observe depuis un certain temps. Les organisations de la société civile réunies au sein du cadre des concertations de la société civile du Congo central attirent l'attention des grands électeurs à ne pas tomber dans l'erreur des députés provinciaux de la législature passée avec comme conséquence 5 gouverneurs à la tête de la province pour un seul mandat. Dans une déclaration faite à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue ce dimanche pour analyser le restant du processus électoral en cours, cette organisation invite les députés provinciaux à faire un choix judicieux. La déclaration est lue par le président du cadre des concertations de la société civile, Jules Benga. Il est au micro de Nana Plurich Mambou.
C'est avec beaucoup d'intérêt que les organisations de la société civile réunies au sein du cadre des concertations provinciales de notre province suivent de très près la situation politique de l'heure avec l'organisation des élections des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale, des sénateurs, des gouverneurs et des vice-gouverneurs des provinces. Malheureusement, ce processus qui a bien démarré le samedi 13 avril 2024 dernier avec la mise en place du bureau définitif à l'Assemblée provinciale se voit être émaillé par des conflits de positionnement parmi les filles et fils du Congo central. Voilà pourquoi les cadres de concertation provinciale de la société civile du Congo central lancent-ils une mise en garde sévère à l'endroit des députés provinciaux appelés à ne pas tomber dans le piège de leurs prédécesseurs qui ont joué à la politique de leur ventre. Ils vous invitent tous à opérer un choix responsable.
Dans la province du Maniema, les médecins-chefs des zones de toutes les 18 zones de santé de cette province et les cadres de la DPS Maniema viennent de participer à un atelier de reconfiguration de la chaîne d'approvisionnement des vaccins et autres intrants de vaccination. Durant 3 jours, les participants ont échangé sur comment mettre fin à la problématique des ruptures des vaccins dans les structures sanitaires. On écoute Dr Alain Mugoto Biamungu, programme manager de l'ONG Village Rich, structure organisatrice au micro de Florence Kizalunga.
la province a été considérée comme la deuxième sous l'échiquier national à régorger le plus grand nombre d'enfants zéro dose au décours des enquêtes de couverture vaccinale réalisées par l'école de santé publique en 2022. S'il faut décrire la situation qui se faisait avant, c'est que les vaccins, quand ils quittaient l'antenne Kindu pour aller dans les 5 zones de santé de la même antenne, les antennes ne prenaient pas en charge les sites de stockage qui étaient sur leur trajectoire. Mais la reconfiguration de la chaîne d'approvisionnement que nous venons de faire ici nous a permis de demander aux antennes de prendre en charge tous ces sites de stockage sur leur parcours pour que les zones de santé qu'ils sont en train de censer servir ne puissent pas rentrer sur leur parcours. Et ce qu'il faut encore dire, c'est que pour les zones de santé, la plupart d'infirmiers laissaient le travail parfois d'aller vacciner les enfants ou d'appuyer les relais communautaires à identifier les zéro doses pour venir chercher le vaccin au niveau des zones de santé. Autant nous voulons qu'il y ait équité dans les prestations de services de vaccination, nous voulons aussi qu'il y ait équité dans la chaîne d'approvisionnement.
Actualité internationale.
Au Burundi, des centaines de milliers de personnes ont été contraintes de se déplacer à cause des inondations provoquées par les fortes pluies. L'Afrique de l'Est connaît ces dernières semaines des pluies torrentielles qui ont causé la mort d'au moins 58 personnes en Tanzanie et 13 autres au Kenya. Au Burundi, ces pluies dévastatrices ont provoqué des inondations, glissements de terrain, vents violents et grêles ainsi ayant affecté plus de 203 900 personnes entre septembre 2023 et avril 2024.
L'invité.
Tractation pour la formation du nouveau gouvernement. Des acteurs de la société civile exigent une réduction du train de vie des institutions. Cela pour dégager des lignes budgétaires pour des investissements. C'est notamment Valérie Madjanga, directeur général du Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFEDEL. Il propose à la nouvelle première ministre quelques mesures pour lutter contre les dépassements budgétaires récurrents. Situation à la base d'une économie peu reluisante avec une croissance non inclusive. Valérie Madjanga, directeur général du CREFEDEL, s'entretient avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Valérie Madjanga, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Aujourd'hui, tout le monde est d'avis qu'il faut absolument réduire le train de vie des institutions au niveau du CREFEDEL. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Bon, le train de vie des institutions, d'abord, c'est au niveau de la budgétisation. C'est-à-dire qu'il faut regarder quelles sont les lignes budgétaires qui sont surestimées et aussi des lignes budgétaires qui n'ont aucune importance. Et lorsque nous faisons nos analyses, nous avons toujours relevé qu'il y a d'abord la question des dépenses qui ne sont pas très très importantes. Vous avez par exemple les fonds spéciaux d'intervention. Cette ligne budgétaire, elle est pratiquement, je m'excuse pour la tautologie, budgétivore. Pourquoi? Parce qu'elle intervient pratiquement dans toutes les grandes institutions. Vous avez le Parlement, vous avez au niveau de la présidence de la République et vous avez quelques services spéciaux.
Et elle fait quoi, cette ligne?
Cette ligne,
elle vient appuyer quel besoin?
C'est une rémunération bis et le fonctionnement bis. Je peux vous donner l'exemple. Vous avez par exemple au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cette ligne revient deux fois. Elle sert à financer d'abord le fonctionnement des commissions parlementaires, mais aussi elle permet à rémunérer certains agents. Vous voyez, si vous regardez davantage les crédits, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, vous verrez qu'il y a aussi une ligne rémunération, que ce soit pour les députés, mais aussi pour l'administration de l'Assemblée nationale. Et cette ligne, dans le décaissement des fonds, on fait ce qu'on appelle la mise à disposition des fonds. Ça ne suit pas la chaîne de la dépense publique. Et cette ligne, à elle seule, peut être évaluée autour de entre 200 et 300 millions de dollars par an. Et la gestion de cette ligne-là, elle est vraiment catastrophique. C'est pourquoi il faut d'abord...
Catastrophique ou opaque?
Opaque même, je peux dire. C'est-à-dire qu'il faut, il faudrait qu'on regarde d'abord cette ligne-là pour voir dans quelle mesure on peut détailler la ligne en termes de dépenses. Qu'est-ce qu'on couvre réellement? Je pense qu'on peut capter quelque chose. Si on va au niveau de la présidence de la République, vous avez par exemple, on parle trop de l'inspection générale des finances, qui est aussi dotée par ces fonds-là qu'on appelle les fonds spéciaux d'intervention. Ça explose. C'est autour de 30 millions de dollars l'année. Moi, je pense que si on doit faire les économies, à ces niveaux-là, d'abord, on peut dégager quelque chose. Deuxièmement, c'est au niveau des recrutements. Vous savez que dans des cabinets des ministres, on recrute en désordre la taille du gouvernement. Je crois que on doit voir d'abord En termes de conseillers, on doit en avoir combien? Je me souviens que le dernier décret fixait autour de 37 à 40 membres d'un cabinet du ministre. Mais dans la faisabilité, on atteint le 100 et le 150. Vous savez qu'il y a même de personnels dont au niveau des cabinets des ministres sont payés même par des listes additives. Donc, on n'est pas en mesure de capter la vraie masse salariale à payer à tous ces membres-là des cabinets politiques.
Alors Valérie Mandianga, comment corriger toute cette situation qui devient récurrente, hein?
Oui, moi je pense qu'il faut d'abord commencer par revoir d'abord le nombre de membres au niveau des cabinets. Vous avez un ministre, dans son cabinet, il a des chargés d'études. Si vous allez au niveau de l'administration, il y a aussi des chargés d'études. À quoi serviraient maintenant les chargés d'études qui accompagnent les ministres? Or, pourraient être accompagnés de 2, 3 ou même une dizaine de conseillers et qui s'appuient au niveau de l'administration. Parce qu'au niveau de l'administration, vous avez au moins tous les services spécialisés qui peuvent accompagner l'action du premier, plutôt d'un ministre. Mais ça ne se fait pas comme ça. On explose le nombre de membres, on recrute et on ne tient même pas compte du cadre organique du ministère ou même du cadre organique qui devrait régir un cabinet du ministre. Il faudrait que le Premier ministre prenne d'abord la décision, une grande décision, pour signer un décret qui devrait limiter le nombre de membres de cabinet et leurs assimilés. Il faut qu'il y ait un courage. Vous savez, madame, si nous faisons des simulations, nous pouvons gagner autour d'$1 milliard juste pour les économies qui pouvaient être effectuées au niveau des ministères, mais aussi au niveau des institutions. Nous changeons de gouvernement, mais les modes de gouvernance ne changent pas. C'est ça le vrai problème.
Valérie Mandianga, merci.
Je vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Mise en onde par Dieudonné Nyangasa et Polydor Basunga, sous la supervision et coordination des Élisée Chikota Tuvueta et Martin Sebujangwe. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.